Europe 1, il est 22h. Le journal, Rémi Bossaron.
Les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes prioritaires.
Le constat violent de l'ONG Acted après l'attaque meurtrière qui a visé ses employés hier au Niger. 8 morts et des questions sur les circonstances de cette attaque. Nous y répondrons en détail dès le début de ce journal. Le Liban n'a plus de gouvernement après l'explosion dévastatrice d'il y a 6 jours et face à la colère qui s'exprime depuis samedi dans les rues de Beyrouth. Le Premier ministre Hassan Diab a cédé et démissionné. Les Parisiens avancent masqués depuis ce matin dans des secteurs très fréquentés de la capitale. Le port du masque est désormais obligatoire et difficile pour certains de trouver leur repère.
On me demande de porter le masque, c'est pas un effort incommensurable. On sait sûr qu'il fait chaud, on préférait ne pas en mettre. S'il faut en mettre un, j'en mets un.
Le gouvernement amplifie encore son soutien au secteur du tourisme, durement frappé par la crise sanitaire et économique. Son plan d'aide s'ouvre notamment aux métiers d'art et aux traducteurs-interprètes. Enfin, nouveau grand départ pour le Tour de France 2021. Copenhague attendra 2022, c'est de la Bretagne et de Brest que la grande boucle s'élancera l'an prochain.
La Bretagne est absolument essentielle dans le monde du cyclisme, dans sa légende aussi, avec ses champions. La Bretagne, ce sont des paysages, la Bretagne, c'est 200 clubs de cyclisme, la Bretagne, ce sont des courses chaque année, partout, en Coupe de France.
La météo et Marlène Duré, à la fin de ce journal, évidemment, nous parlerons de cette canicule qui va durer encore quelques jours sur la France. Et puis vos deux rendez-vous du soir cet été, les conseils de lecture précieux de Stéphane Place et la bonne idée de François Claus qui va encore nous montrer qu'il y a des beaux gestes, de belles initiatives un peu partout en France qui permettent de vivre un peu mieux cette crise, de manière en tout cas plus solidaire.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ils étaient 8, 4 hommes et 4 femmes, 7 membres de l'ONG Acted et leur guide nigérien. Tous ont été tués hier par un groupe armé au Niger. Ce groupe, composé donc majoritairement d'humanitaires français, se trouvait à 60 km seulement de la capitale Niamey quand il a été victime de cette attaque terroriste sur le chemin d'une excursion touristique. Bonsoir Pauline Jacquot.
Oui, cette attaque qui a tué 4 femmes et 4 hommes âgés de 25 à 50 ans. Acted, qui précise que ses employés sont partis de Niamey à 8h30 dimanche matin en direction du parc de Kouré. Ils confirment leur arrivée, comme le veut le protocole, 1h30 plus tard. Puis à 11h30, l'ONG est alertée, affirme la directrice générale Marie-Pierre Calais. Les 8 personnes à bord du véhicule ont été la cible d'hommes à moto.
En début d'après-midi, nous avons été informés par les gardes forestiers qu'un véhicule d'Acted avait été retrouvé calciné. En liaison avec l'ambassade, un véhicule Barkhane et une ambulance ont été envoyés sur place. Ils ont trouvé 8 corps et les ont rapatriés à l'Institut médico-légal de Niamey dans la soirée.
Les corps sont alors identifiés. Il s'agit bien de 7 membres d'Acted et d'un accompagnateur du parc de Kouré.
Alors voilà pour les explications données à Paris aujourd'hui par les responsables de l'association humanitaire. Ils ont livré donc les premiers détails sur ce drame. Si l'on en croit les dirigeants d'Acted, au moment de l'attaque, Pauline, le groupe ne se trouvait pas dans une zone a priori particulièrement dangereuse.
Oui, il s'agit effectivement d'une zone classée jaune par le ministère des Affaires étrangères. Jaune, ça veut dire vigilance renforcée, mais déplacement possible. Le point de départ, la route et le point d'arrivée. Tout le trajet de Niamey à Kouré était donc classé jaune. Il était aussi très emprunté par les expatriés, selon Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué d'Acted.
Nos jeunes humanitaires sont morts dans cette zone jaune, une zone où l'on pouvait aller, je dirais, de manière assez classique, quand on avait besoin de repos. Les humanitaires, ce sont des gens qui travaillent au-delà de tout horaire. Et le dimanche, quelquefois quand on peut, on se repose.
Alors Pauline, quelle suite judiciaire après cette attaque? Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi du dossier et Acted va porter plainte.
Oui, pour éclaircir les circonstances de l'attaque, a dit l'avocat de l'ONG cet après-midi, que les familles puissent savoir est-ce que c'était une attaque planifiée ou en revanche une attaque dite d'opportunité. Acted, de son côté, semble pencher pour la deuxième option. Il pourrait s'agir, selon ses responsables et ses porte-paroles, d'une attaque fortuite.
Merci Pauline Jacquot pour toutes ces explications. Et au-delà des détails qui ont pu être donnés à propos des circonstances de cette attaque tout à l'heure, les dirigeants d'Acted ont aussi livré leur détresse. Car comme le dit Frédéric Roussel, cofondateur de l'organisation, ils estiment que les humanitaires sont devenus désormais des cibles prioritaires dans les zones où ils interviennent.
La communauté internationale demande aux ONG de prendre des risques pour aider les gens à ne pas mourir de faim, de soif, de maladie dans des conditions atroces. Et de l'autre, je constate que les humanitaires, qui étaient autrefois des personnes inviolables et sacrées, sont devenus au fil des ans des victimes collatérales. Depuis de nombreuses années, les ONG et leur personnel, national et international, sont devenus des victimes prioritaires. Donc nous sommes passés d'inviolable et sacré à dommages collatéraux et maintenant à victimes prioritaires. C'est tellement plus facile de s'attaquer à un humanitaire qui nourrit un camp de réfugiés et qui empêche les enfants de mourir de faim avec son t-shirt, sa petite chemise et sa voiture que de s'attaquer évidemment à une base militaire ou etc.
Frédéric Roussel, le cofondateur de l'ONG Acted après l'attaque terroriste dont ont été victimes ses employés au Niger hier. Au Liban, c'était attendu, c'est désormais acté, le gouvernement n'aura pas résisté à l'explosion dévastatrice d'il y a 6 jours dans le port de Beyrouth, pas résisté non plus à la colère qui montait de la rue de Beyrouth. La démission de ce gouvernement a été annoncée ce soir par le Premier ministre Hassan Diab, Nicolas Feldman.
Oui, des mots forts pour le Premier ministre. Le système de corruption s'est étendu au sein de l'État, dit Hassan Diab. Et pour lui, cette explosion qui a ravagé Beyrouth est le résultat de cette corruption endémique. Le Premier ministre sera donc resté près de 7 mois à la tête du gouvernement. Mais après ce week-end de colère, la pression était trop forte. Et avec lui s'en vont une vingtaine de ministres. Pas de quoi calmer la colère du peuple. Ils étaient encore nombreux ce soir devant le Parlement. Et qu'importe les mots du chef du gouvernement, aussi fort soit-il, il faut aller plus loin pour Myrna.
Je démissionne, ça veut rien dire jusqu'à ce que quelque chose change. Tout le monde est en train de démissionner maintenant, ça veut pas dire qu'il y aura des réformes. Maintenant on attend de voir leur tête, je sais pas qu'est-ce qu'on attend. Parce que s'il y a plus personne, c'est l'anarchie, nous on veut faire quelque chose de notre pays, mais pas avec les gens qui sont présents maintenant.
Mais en attendant, comme le veut la Constitution, le président doit maintenant nommer un Premier ministre, à lui ensuite de former le gouvernement. L'année dernière, les Libanais avaient dû attendre plus de 3 mois avant de connaître leur nouvel exécutif.
Merci Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Et ce soir, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, appelle, je cite, à la formation rapide d'un gouvernement qui fasse ses preuves auprès de la population.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
Biélorussie, la police a dispersé ce soir par la force de nouvelles manifestations après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Des arrestations ont eu lieu à Minsk. Ces résultats officiels donnent la victoire, encore une fois, à Alexandre Loukachenko. Plus de 80% des voix, mais ils sont contestés par l'opposition qui estime le scrutin falsifié. La canicule est bien là sur la France depuis plusieurs jours. Elle va le rester encore quelques jours. On y reviendra à la fin de ce journal, évidemment, avec Marlène Duret. Mais on peut déjà s'intéresser au cas des Parisiens placés en vigilance rouge, comme toute l'Île-de-France, et qui, depuis ce matin, doivent tout de même porter un masque en extérieur dans certaines zones très fréquentées, en tout cas comme les berges de Seine, le canal Saint-Martin ou le bassin de la Villette. Et pour le moment, Victor Delande, ce qu'on constate surtout, c'est que les Parisiens et les touristes ont un peu de mal à s'y retrouver.
Oui, il devait y avoir des panneaux de signalisation pour bien indiquer les zones où le port du masque est désormais obligatoire. Mais je dois avouer que j'ai dû bien chercher pour trouver quelques panneaux. Monique fait partie des bons élèves, elle le porte, mais là, elle est un peu perdue.
Je me posais justement la question de savoir est-ce que j'étais dans une rue où il est obligatoire de porter le masque. De toute façon, je ne sais pas quelle est la bonne solution. On me demande de porter le masque, ce n'est pas un effort incommensurable. Bon, c'est sûr qu'il fait chaud, on préférait ne pas en mettre. S'il faut en mettre un, j'en mets un. Ça, il n'y a pas de problème, j'en ai toujours dans mon sac. Bon, voilà, c'est sûr, mais il faut le faire.
Lydia et Elisabeth, masques chirurgicaux sur le visage, sont vraiment étonnées, un poil énervées même contre les Parisiens qui ne respectent pas bien les règles.
Je pense qu'on va retourner dans le confinement, parce que les gens ne font pas attention, ils le cherchent aussi. Je disais à la dame, parce que justement on a vu 2-3 personnes avec qui le portait là. On se dit, ça ne sert à rien.
Il faut continuer, il n'y a pas de raison.
Voilà, surtout porter le masque, voilà, surtout.
Pendant 2 semaines, la mairie de Paris promet une certaine tolérance, le temps que tout le monde adopte ces nouvelles règles. Au-delà de ce laps de temps, il en coûtera 135 € d'amende aux étourdis et aux réfractaires.
Et merci Victor Delande pour ce constat que vous avez pu faire dans les rues de Paris. Vous avez donc peut-être croisé quelques touristes, mais ils sont très rares cet été en France. On le sait, le secteur du tourisme est en souffrance, en raison évidemment de la crise sanitaire. Alors le gouvernement reste à son chevet. Les exonérations de charges et le chômage partiel vont être élargies à de nouveaux secteurs, annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire depuis Lourdes aujourd'hui, ville qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle a perdu 70 à 80% de son activité économique cette année. Or, le dispositif d'aide gouvernementale bénéficiera notamment aux magasins de souvenirs et de piété, Benjamin Peter.
Oui, parce que des boutiques de souvenirs où on peut trouver entre autres un chapelet ou une statuette de la Vierge, il y en a 130 ici autour du sanctuaire. Sauf qu'avec l'annulation de la quasi-totalité des pèlerinages, il n'y a plus grand monde, comme Bruno Le Maire s'en est vite rendu compte.
Ils ont l'habitude de venir à Lourdes, d'habitude avant le 15 août ici, ça grouille de monde, voilà. Et on tout est ouvert. Là, il y a très peu de monde et il y a beaucoup de rideaux fermés. Donc je pense que ça veut tout dire.
Beaucoup de commerces n'ont pas rouvert et pour ceux qui travaillent, comme Claudine Aubert, le moral est en berne.
C'est une année blanche, c'est une saison blanche. Se lever le matin en sachant qu'on va faire 15% de notre chiffre, c'est difficile. On fait des heures, on n'a plus de personnel. On fait 10 heures, 12 heures d'affilée pour pas grand-chose.
Et pour David Capen, qui n'a pu rouvrir qu'une seule de ses deux boutiques de confiserie, l'avenir est très incertain.
Sur les deux établissements, j'ai que cet établissement qui est ouvert et qui tourne sans vous cacher entre 350 et 400 euros par jour, où normalement on roule entre les deux établissements entre 3500 et 4000 par jour. Situation catastrophique, cette année ça va être une année zéro pour moi, donc c'est-à-dire zéro salaire, absolument rien à la fin de l'année. Comment va-t-on passer cet hiver ?
Alors cette possibilité d'obtenir une aide de 1500 euros, plus 10 000 euros pour les loyers au moins jusqu'à Pâques est accueillie avec soulagement, mais beaucoup se demandent si ça suffira, si les pèlerins, en particulier étrangers, seront au rendez-vous le printemps prochain.
Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest de la France. Ils s'en vont petit à petit, mais sont encore plusieurs centaines de teufeurs rassemblés au cœur du parc national des Cévennes. Cette rave party sauvage avait débuté samedi. Elle a rassemblé jusqu'à 7000 personnes sur un champ investi par surprise. Les autorités tentent d'encadrer cet événement, de mettre en place des consignes sanitaires. Bonsoir Mathieu Bock, où en est-on ce soir ?
Ce soir, donc, environ 3500 personnes occupent toujours le site. Sur place, il n'y a pas de tension particulière. Les gendarmes empêchent les fêtards et les habitants de se rencontrer en formant un cordon hermétique. Mais l'objectif principal des autorités reste d'éviter la formation d'un cluster de Covid-19. Pour cela, la préfète de la Lozère, Valérie Hatch, va mettre en place des tests PCR à la sortie du site.
Demain matin, on mettra en place deux dispositifs pour permettre aux gens qui participent à cette rave party de pouvoir se faire tester. Évidemment, c'est toujours sur le principe du volontariat, mais en tout cas, on leur met à disposition pour qu'ils puissent être amenés à le faire. L'objectif, c'est quand même que le virus ne se propage pas, y compris quand ils retourneront chez eux.
Alors, côté sanitaire, plusieurs fêtards ont fait un malaise à cause de stupéfiants, d'alcool et du soleil. Et ce soir, une personne a été évacuée en urgence absolue, très probablement victime d'une overdose.
Merci Mathieu Bock. Le bateau échoué fin juillet sur les massifs coralliens au large de l'île Maurice continue de souiller les eaux jusque-là translucides. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée désormais pour tenter d'empêcher une nouvelle fuite d'hydrocarbures. Les autorités craignent en effet que le bateau ne se brise et déverse son carburant, ce qui amplifierait évidemment encore cette catastrophe écologique. Capucine Rouault.
Oui, plus de 3000 tonnes de fioul risquent de se répandre à tout moment dans l'océan. Aujourd'hui, les plongeurs ont repéré de nouvelles fissures dans la coque du bateau. Des craquements ont même été entendus depuis la côte et la météo n'arrange rien à la situation, comme l'explique Davina, l'une des plongeuses.
Comme nous avons un peu plus de vent, un peu plus de vagues et comme le bateau est juste là sur le récif, comme les vagues, ça tape et que le bateau tape en même temps, alors ça commence à être un petit peu plus endommagé. On se prépare au pire.
Et le vent gêne les hélicoptères qui pompent cette nappe noire. Depuis la côte, des milliers de volontaires tentent d'éviter le pire. Souvent, avec les moyens du bord, des barrages flottants sont fabriqués à la main. Les Mauriciens ramassent le carburant avec les seaux. Pour l'instant, ça fonctionne, mais ça ne va pas tenir longtemps. La France a envoyé plus de 20 tonnes de matériel pour échapper à une catastrophe écologique colossale.
Merci Capucine Rouault. Le sport est un effet domino, une conséquence de la crise sanitaire. Le Tour de France 2021 partira finalement de Bretagne. Le grand départ devait avoir lieu à Copenhague. Il a été décalé d'un an suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est donc Brest qui verra s'élancer la grande boucle l'été prochain pour la première des 4 étapes dans la région. 4 étapes pour la seule Bretagne, la récompense de son attachement éternel au vélo, selon Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
La Bretagne est absolument essentielle dans le monde du cyclisme, dans sa légende aussi, avec ses champions, bien sûr, avec évidemment Bernard Hinault, mais avec avant lui, Louis Zoumbeuvet, Jean Robic ou Petit Breton, Lucien Mazan, le premier double vainqueur du Tour de France en 1907 et en 1908. La Bretagne, ce sont des paysages, la Bretagne, c'est 200 clubs de cyclisme, la Bretagne, ce sont des courses chaque année, partout, en Coupe de France. La Bretagne, ce sont des champions, et c'est vrai que la Bretagne a été prompte à réagir lorsqu'il a fallu roquer les grands départs 2021 et 2022, puisque à cause du coronavirus, les calendriers chamboulés, Copenhague, qui devait accueillir le départ de 2021, accueillera finalement celui de 2022. Et donc la Bretagne a accepté, grâce à la région, grâce à son président, Loïc Chesnais-Girard, grâce au département, de nous accepter à partir du samedi 29 juin 2021, où nous partirons de Brest avec un grand plaisir. Ça va être B comme Bretagne et B comme bonheur.
toujours le sens de la formule pour Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui était avec Stéphane Beignet pour Europe 1. Et puis les 24 heures du Mans auront bien lieu au mois de septembre, mais sans public, en raison évidemment des incertitudes toujours liées à cette pandémie de Covid-19. Annonce faite aujourd'hui par l'Automobile Club de l'Ouest, la 88e édition de la fameuse épreuve d'endurance automobile aura lieu les 19 et 20 septembre prochains. La météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Marlène Duret, on a commencé à en parler déjà, en parlant des Parisiens dans ce journal. Pas de changement pour demain. Le temps reste caniculaire et orageux.
Le contexte restera le même qu'aujourd'hui. En effet, Rémi, la chaleur régressera néanmoins par l'ouest progressivement. Et vendredi, on ne parlera plus de canicule. En attendant, 54 départements restent placés en alerte orange et 12 en rouge. Alerte maximale donc dans le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la Picardie et surtout le bassin parisien. Même si les températures baissent un petit peu, la nuit va rester chaude et les valeurs en journée seront sensiblement les mêmes, avec généralement 33 à 37 degrés dans l'intérieur des terres. 36 à Lille, Paris, Nancy, Montauban, Montélimar, 37 à Lyon et puis les régions côtières afficheront 26 à 33 degrés, 26 à Brest par exemple, 29 à La Rochelle ou encore 33 à Nîmes. Alors le temps de ce mardi s'annonce changeant partout, avec toujours ce risque d'ondées en matinée, parfois orageuses et qui vont concerner les régions de la moitié ouest. Ensuite, on va parler d'averses généralisées dans l'après-midi ou en soirée, c'est-à-dire que le beau soleil du matin présent des Hauts-de-France au Grand Est, en vallée du Rhône et dans les régions alpines, s'effacera en journée pour laisser place à un ciel chaotique. Attention aux orages dans les Pyrénées et puis le beau temps résistera à proximité de la mer Méditerranée, avec une exception pour les rivages du Golfe du Lion où les entrées maritimes pourraient bien obscurcir le ciel.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place. Vous avez l'habitude, Stéphane Place, en collaboration avec la librairie Mola à Bordeaux, tout de suite sur Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
Un livre pour l'été, donc, comme tous les soirs, le conseil lecture de Stéphane Place en collaboration avec la fameuse librairie Mola de Bordeaux. Ce soir, il est question d'une reconstruction, celle d'une anthropologue qui a donc dû se reconstruire après ce qu'elle appelle une collision, une rencontre avec un ours. Ça s'est passé en Sibérie, à flanc de montagne. Elle raconte tout cela dans un livre qui s'intitule « Croire aux fauves ».
L'auteur de cet ouvrage est une anthropologue, spécialiste des populations arctiques, et c'est essentiel pour bien saisir la démarche singulière qui a engendré l'écriture de ce texte. Ce livre ne raconte pas seulement l'expérience personnelle, douloureuse, terrifiante, de l'attaque d'un ours qu'a subi Nastassia Martin. Un événement qui se produit il y a 4 ans, quelque part dans les montagnes du Kamtchatka, en août 2015. Alors bien sûr, l'auteur revient sur ce cauchemar, les hospitalisations, opérations successives, pour reconstruire son visage, mais en 150 pages, elle va beaucoup plus loin dans l'analyse, dans les questionnements que suscite cette confrontation soudaine et violente avec cet animal. Et c'est ce qui a plu à Pierre Coutel, libraire chez Mola.
Nastassia Martin va tomber, mais de façon parfaitement littérale, nez à nez, ou plutôt dos à dos avec un ours. Et cet ours, aussi surpris qu'elle, va d'un coup de griffe la défigurer. Nastassia Martin survit à cette agression. Là commence un récit qui est un récit à la fois mettant en scène sa propre reconstruction physique, mais aussi mentale, et comment cette reconstruction se fait en parallèle de l'attachement qu'elle a à ces peuples, qui sont des peuples eux aussi en train de disparaître. Elle a une façon de voir le monde, les environnements, surtout sur des peuples dans lesquels il y a une présence chamane, qui sont des peuples dans lesquels la dimension de la nature, de la présence des paysages est absolument essentielle. Et puis l'autre qualité de Nastassia Martin, c'est une qualité d'écriture.
En Russie d'abord, en France ensuite, Nastassia Martin s'est retrouvée entièrement aux mains des soignants. Elle est passée par des hauts et des bas, qu'elle décrit d'ailleurs avec une plume acérée, une introspection profonde qui forcément touche et interroge le lecteur sur l'après, après l'accident, après le choc.
Me servir de l'outil littéraire pour pouvoir partager un petit peu qu'est-ce que ça peut être que les questionnements d'un anthropologue sur le terrain, au retour du terrain, et puis surtout après ayant fait face à des événements qui transforment sa vie. Peu après l'événement où vous êtes vraiment rompu, brisé, vous mettez genoux en terre. Et puis après, il y a un deuxième temps de la reconstruction, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que vous repreniez pied dans le monde que vous avez temporairement quitté, parce que c'est ça, hein, que ce soit quand j'étais à l'hôpital ou après, quand je suis retournée au Kamchatka, j'étais un peu hors le monde. Et à un moment donné, pour revenir dans le monde, bah oui, il faut reprendre les armes. Peut-être qu'on arrive à faire face un peu moins frontalement. J'ai pas lâché les armes du tout. Elles sont encore plus aiguisées.
Croire aux fauves, l'histoire d'une reconstruction, pour ne pas dire d'une renaissance, après ce que Nastassia Martin désigne elle-même comme une rencontre avec cet ours, à laquelle elle a survécu, une épreuve dont elle a su tirer des leçons qu'elle partage dans ce texte puissant.
Le conseil de lecture de Stéphane Place, comme tous les soirs. Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Et on va rester justement dans le Sud-Ouest pour l'autre rendez-vous estival du soir sur Europe 1. C'est la bonne idée tous les soirs avec François Claus, qui nous révèle donc une idée lumineuse, généreuse, quelque part en France, en ces temps de crise. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de la situation difficile pour les résidents des EHPAD au plus fort de la pandémie de Covid-19. Eh bien, ce soir, on parle d'une initiative qui va dans leur sens et qui pourrait leur faire du bien si l'on misait, pourquoi pas, sur la thérapie équestre.
Bonsoir, Monsieur Chabanne.
Oui, bonsoir.
On voulait vous donner notre coup de chapeau du soir sur Europe 1 pour votre très belle initiative. Vous qui êtes le président du comité régional d'équitation de Nouvelle-Aquitaine, vous avez eu l'idée de mettre en relation des centres équestres, des chevaux, avec des personnes résidentes d'EHPAD, en estimant que la rencontre du cheval et de la personne en EHPAD pouvait donner lieu à une très très belle alchimie. C'est bien ça votre idée ?
Oui, tout à fait. C'est une initiative qui est née en 2014 de notre réseau Cheval et Différence, qui s'intéresse plus largement au public en difficulté, aux personnes handicapées, aux enfants des quartiers difficiles, aux personnes subissant des violences, on pense notamment aux femmes battues, mais pour ce qui concerne ce public qui subit plus ou moins la précarité de l'âge, on a pensé il y a quelques années que c'était une bonne idée en effet de réunir avec une convention tripartite les centres équestres, les maisons de retraite et le comité régional.
C'est une thèse qui est très très développée dans certains pays, je pense au Canada notamment, l'apport que le cheval et son fameux sixième sens peut donner à l'homme en difficulté. Vous pouvez nous raconter ce qui se crée entre le cheval et l'homme dans ces moments-là, une forme de communication que les humains entre eux n'arrivent pas à avoir?
Oui, tout à fait. L'intérêt du cheval dans cette opération, c'est qu'on utilise son pouvoir de médiateur. Le cheval, c'est un animal apaisant qui établit un lien sensoriel incroyable avec ce public en difficulté. En quelques secondes, le cheval sait à qui il a affaire, il comprend ce qu'on lui demande et c'est tout à fait extraordinaire pour le constater. Les gens de chevaux sont toujours ébahi par ce lien particulier d'un cheval avec ce public en difficulté, quel qu'il soit. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, ce sont les handicapés, les autistes.
Oui, il y a des résultats assez marquants du côté de l'autisme. Oui. Vous pouvez nous raconter une scène qui vous a marqué, par exemple, dans ce contact entre les EHPAD et les centres équestres, Pascal Chabanne ?
Ah ben, écoutez, c'est le sourire que peuvent avoir les personnes âgées lorsqu'elles arrivent dans ce milieu qui est en fait souvent ce sont des fermes finalement dans la ville hein, puisque ce sont des centres équestres souvent qui sont périurbains, les établissements de personnes âgées sont pas très loin et ces personnes âgées qui souvent ont connu dans leur passé le contact avec cet animal pour l'avoir vu à la campagne ou à l'époque où le cheval était plus présent dans la vie de tous les jours, notamment à la campagne, ça leur rappelle des souvenirs et on voit ce sourire, on voit tout d'un coup des personnes âgées qui ne bougeaient pas dans leur fauteuil se manipuler l'animal, le poney. Souvent, ce sont des poneys qu'on utilise et en toute confiance, finalement.
Et de créer un moment comme de communion très, très saisissant et très émouvant. C'est pour ça qu'on voulait ce soir, Pascal Chabanne, vous adresser notre coup de cœur du soir et notre coup de chapeau. Merci d'avoir été en ligne sur Europe 1.
Les vertus inattendues de la thérapie équestre avec François Claus, c'était sa bonne idée du soir. Dans un instant, comme tous les soirs également, on jettera un œil sur les unes de la presse de demain, ce que vous attirez dans votre kiosque. Mais on va d'abord, comme tous les soirs, encore une fois, finir par une petite touche de musique. Et cette fois, c'est Si j'avais su, Louis Chédid. Les unes de la presse, comme tous les soirs, on jette déjà un coup d'œil sur les unes qui vous attendent demain dans votre kiosque à journaux. Et ce qui vous attend notamment, c'est la une de l'Humanité qui s'intéresse à l'une des grandes actualités, évidemment, du jour et même de la semaine. C'est cette canicule qui frappe la France. On a parlé tout à l'heure des Parisiens obligés de porter le masque dans certaines zones. C'est le cas aussi des ouvriers, par exemple, sur les BTP. On le voit en une, cette photo d'un ouvrier avec son casque sur la tête et le masque sur la bouche. C'est le cas aussi dans les restaurants, par exemple, c'est ce que nous dit l'Humanité. Les travailleurs en surchauffe, c'est le titre, sans qu'une réelle législation ne vienne les protéger, nous assure le journal. En une d'aujourd'hui en France, autre grande actualité du jour, évidemment, enquête sur un massacre, sur ce massacre d'humanitaires français et de leur guide nigérien. C'était à Niamey hier, donc au Niger, et on voit en une cette photo choc de la carcasse de la voiture brûlée, calcinée de ces personnes, des hommes, des femmes, tués donc dans cette attaque terroriste au Niger. Hier, enquête sur un massacre, c'est en une d'aujourd'hui en France. Également cette carcasse qu'on retrouve en une du Figaro, humanitaire français tué au Niger, question sur un massacre terroriste. Mais un petit peu plus haut, on voit également une question politique que se pose le Figaro sur Castex, Jean Castex, le Premier ministre. Castex sur tous les fronts pour imposer son style. Le Premier ministre multiplie les déplacements, a installé un mode de gouvernance qui se veut complémentaire de celui du président afin de combler les failles de la Macronie. C'est l'analyse du Figaro, à retrouver donc en une demain. En une des échos, ça pourrait concerner Jean Castex puisque c'est le bilan économique aussi qui va être le sien. Premier signe d'essoufflement pour la reprise, titre les échos, l'activité en juillet a progressé mais reste 7% inférieur à la normale, nous apprennent les échos. Le gouvernement prolonge les aides d'urgence pour de nouveaux secteurs et les aides au tourisme également, on en a parlé dans le journal. Et puis on finit avec du sport puisqu'on en a parlé également dans le journal. C'est en une de Ouest France, évidemment, la fierté d'accueillir le Tour de France l'an prochain. Ce ne sera pas à Copenhague le rang départ, mais bien à Brest, Tour de France 2021. Rendez-vous à Brest tout simplement. Et une photo du Tour de France passé évidemment plusieurs fois ce peloton sur les routes de Bretagne qui est en une de Ouest France avant le grand départ à Brest et quatre étapes dans les terres bretonnes l'année prochaine pour la Grande Boucle. Et tout de suite sur Europe 1 à 22h30, passé de quelques secondes, vous retrouvez évidemment la Libre Antenne avec Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Rémi.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour les prochaines infos.